des TER. Alors, à l'origine, c'est un train qui avait été conçu principalement pour désenclaver les vallées de la Cerdagne au fil du temps, avec l'amélioration du réseau routier, avec les conditions météorologiques de moins en moins dures. Il y a plus les enneigements qu'on a connus il y a une trentaine, voire cinquantaine d'années. Donc au fil du temps, on se retrouve avec une clientèle plutôt touristique. On a sur 2014 à peu près 115 000 voyageurs sur l'année. 93% de ces 115 000 sont réalisés entre le mois de mai et le mois de septembre. Donc c'est un train qui a une vocation touristique affirmée, sachant que la partie domicile-travail, domicile-étude a été un peu mise à mal par la mise en place du bus à 1 euro qui a favorisé le transfert de la clientèle plus classique vers les services routiers du Conseil général.
Est-ce que sa vocation touristique, comme vous le dites, c'est pas paradoxal avec la vocation de service public de la SNCF ?
Non, alors il y a aucun paradoxe. Hein. On peut avoir des missions de service public et avoir une vocation de touristique également. Hein. L'un va surtout avec l'autre, puisque ça contribue au développement économique de la vallée.
À l'époque, le train jaune, ça a été quand même une révolution culturelle et... En fait, tu mettais presque un peu plus d'une demi-journée en diligence pour faire Villefranche-Mont-Louis et tu mettais moins d'une heure en train. C'était quand même le TGV de l'époque. D'abord, ça a été un des premiers trains électriques de France. Il y avait le métro à Paris et le train jaune. C'est pour ça que la conception du train jaune est la même que celle du métro avec un troisième rail pour capter l'électricité. C'est parce qu'à l'époque, les machines du train jaune, elles étaient faites à l'identique de celles du métro à Paris.
Julien Bouton, vous nous avez rejoint à bord du train jaune, parce que vous, c'est une ligne que vous connaissez bien.
Oui.
Vous l'avez arpentée pendant plusieurs mois pour construire une maquette.
C'est ça, oui.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé sur le terrain ?
Bah, sur le terrain, très simple, hein, on a pris nos plans, nos cartes et la voiture, et puis on est parti à la découverte de la ligne, avec bien sûr nos appareils photo et entre crayons et papier, pour faire les plans, pour faire des prises de vue. On a fait des centaines, hein, pour pouvoir refaire les bâtiments, faire des détails de la voie, le troisième rail, les détails de la faune et la flore, bien sûr.
Et cette maquette, elle fait quelle taille ?
En totalité, elle fait une quarantaine de mètres.
Donc, elle est combien de fois plus petite ?
87 fois.
Est-ce qu'il y a aussi du son sur cette maquette ?
Il va y en avoir. Parce que bon, le train jaune sans son, c'est pas le train jaune. Il y a le sifflet qui est très très important, le compresseur, le bruit qu'on entend au début, qui est assez caractéristique de ce train. Ce bruit ne se trouve que sur ce train.
Là, on est dans un tunnel, et vous faites sonner le sifflet, c'est ça, Joël ?
Alors le sifflet, ouais, il est unique en France, ce sifflet. D'abord, c'est un sifflet qui n'a qu'un seul ton. Normalement, les trains ont des sifflets avec deux tons. Un qui est caché pour les intempéries. Et là, il n'y a qu'un seul ton, il a un bruit qui est particulier et qui ressort bien dans le paysage. Il fait partie du train jaune.
Il y a quoi d'autre de différent sur cette ligne ? Comparé aux autres TER de la SNCF ?
C'est surtout l'ambiance de travail. D'abord parce qu'on se croise dans les gares. On est tous quasiment des copains. On a le même âge, presque. Et donc on vit souvent ensemble. Hein. On s'en va, comme aujourd'hui, là, on s'en va pour une trentaine d'heures avec le contrôleur. Souvent, dans la semaine, on passe plus de temps avec le contrôleur qu'avec sa femme. Quoi, hein. Donc ça crée des liens à force. Hein. Au bout d'une dizaine d'années... On se connaît, quoi. Ah, tu vas voir la prochaine gare, la prochaine arrêt X, là, c'est l'arrêt de la Carança. Donc la gare, elle a été déplacée. Avant, toutes les gares, elles étaient faites en palier sur la ligne. Parce que les anciens, quand ils l'ont construite, ils savaient que pour que le train redémarre facilement, il fallait être à plat. Pour des facilités de confort des randonneurs, la gare elle a été déplacée, mais on fait des démarrages en côte. Ce qui est un peu des fois folklorique. Des fois le train n'arrive pas à partir, on part en marche arrière. Hein. Il faut qu'on revienne à la gare en arrière pour se lancer. Enfin, c'est un petit peu folklore. On voit un arrêt X. Donc là, il y a du monde qui nous fait signe pour s'arrêter. On va leur dire que non.
Flavien Dada, donc DPX du dépôt à Villefranche. Voilà, donc partie maintenance.
Et Philippe Marquès, dirigeant de l'unité opérationnelle Grand Sud.
Donc là, on est un peu dans les coulisses du train jaune, en fait, là où les touristes, où les voyageurs ne vont jamais, quoi.
Voilà, presque jamais, oui. Oui, on est dans l'endroit où on fait toute la maintenance du train jaune et où, effectivement, du quai, on voit pas beaucoup, ouais, ça c'est clair. La spécificité du train jaune, donc, c'est que déjà, il a plus de 100 ans, hein, il est de 1909, donc voilà, il va même sur ses 106 ans. Que, voilà, c'est une série qui est à part, il n'y en a que 13, elles sont vieilles, donc des fois, quand on veut une pièce un peu spécifique, soit on arrive à la fabriquer ici, et bon, on s'en sort pas trop mal, soit il faut passer par un fournisseur, et des fois, bon, ça peut être difficile, mais bon, après, on n'en est pas...
Ouais, parce qu'on n'en fait plus des vieilles machines comme ça, il n'y a que ici qu'en fait qu'elles roulent.
Celle-ci, on ne les fabrique plus, non, ça c'est sûr.
Philippe Marquès, vous pouvez m'expliquer la différence entre les TER classiques et le train jaune?
Au niveau de l'écartement, on a un écartement qui est de 1 mètre, au lieu de 1,435 m sur les voies, on va dire, SNCF conventionnelles. Et cet écartement réduit s'explique par la nécessité de devoir circuler dans des rayons de courbes serrées en chemin de fer de montagne. Donc c'est un écartement qu'on retrouve sur différents chemins de fer de montagne, par exemple sur le Mont Blanc Express, entre Saint-Gervais et Valorcine.
Est-ce qu'il y a d'autres spécificités sur cette ligne?
On a en particulier des déclivités importantes, c'est-à-dire qu'on a une pente maximum qui peut atteindre ici un peu plus de 60 pour 1000, soit 6%. Ce qui est beaucoup plus important que ce qu'on retrouve sur des TER, on va dire, habituels, où on est plutôt de l'ordre de 3% maximum à peu près. Ça nécessite une puissance moteur relativement importante. Bon, historiquement, effectivement, le choix de la traction électrique a été choisi sur le train jaune, justement, pour pallier à cette problématique de puissance. C'est-à-dire qu'à l'époque, au début du siècle dernier, les chemins de fer à vapeur ne permettaient pas justement d'avoir la puissance nécessaire pour monter des pentes de 6%.
En fait, c'est pas gagné parce que si tu dépasses les intensités, les moteurs disjonctent et donc tu pars en marche arrière. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Là, tout se passe bien, il pleut pas, ça patine pas, c'est sec. Un peu de sable. Hein. Alors en fait on met du sable parce que l'adhérence du train c'est fer sur fer, c'est ce qui a le moins de frottement. Donc en fait au démarrage on aurait tendance à patiner. Donc en fait on appuie sur les sablières et ça fait tomber du sable entre les roues et le rail. Et ça augmente la résistance, ça nous permet de ne pas patiner.
Et au niveau de la conduite, qu'est-ce que ça change de conduire le train jaune par rapport aux autres TER?
Alors ça demande de grosses connaissances au niveau du profil de ligne, parce que ce train, d'abord, il n'y a pas beaucoup de sécurité embarquée comme il pourrait y avoir sur les autres trains. Sur les autres trains, si vous dépassez la vitesse de plus de 5 km/h, un système embarqué arrête le train. Ici, on pourrait dépasser la vitesse de 50 km/h, que ça ne changerait rien. Il n'y a que le conducteur qui gère à sa vitesse. On connaît les virages, on connaît les endroits où ça pose problème. Donc c'est quand même un métier qui demande un peu plus de connaissances que ce qu'il faut, de pratique métier, que ce qu'il faut ailleurs.
Ça y est, on traverse la tête.
Alors on traverse la tête par un des premiers ouvrages d'art, c'est le pont Séjourné. C'est un pont en pierre. Alors si vous regardez bien, là au milieu, il y a des trappes d'accès. parce que quand ils ont construit ce pont, c'était encore donc c'était avant les guerres mondiales, puisque c'était en 1900. Et donc ils avaient prévu, en cas d'invasion des Espagnols, de pouvoir faire soit sauter le tablier, soit sauter le pont entièrement. Donc en fait, ce pont, il était prévu, il y a des trappes d'accès pour aller poser des charges explosives pour le dynamiter, pour ne pas permettre aux invasions étrangères d'arriver en France. Ils étaient prévoyants à l'époque. Alors là, il y avait le panneau gare, c'est le panneau qui nous indique qu'on va arriver en gare de Fontpedrouse. Donc Fontpedrouse, c'est aussi une gare de croisement. D'ailleurs, on va de nouveau croiser un train en gare de Fontpedrouse. C'est le dernier qu'on croisera de la montée, puisqu'on est dans les derniers trains de la journée.
Julien Bouton, on vient de passer là sur le pont Séjourné. Ça vous rappelle quoi, ce pont ?
De grands moments, parce qu'on a mis pratiquement 6 mois pour le construire dans mon salon. Enfin, surtout ceux de mes parents.
Il y a tellement d'ouvrages d'art sur cette ligne qu'en fait, on dirait presque déjà une maquette à l'échelle réelle, quoi.
Ah, effectivement, oui, il y a énormément d'ouvrages d'art. Alors, si on a la chance de le faire vu du LM ou d'avion, là, on se croirait vraiment dans une maquette. Donc après, nous, notre choix de faire, on peut dire de la maquette, dans ce cas-là, a été très, très compliqué. C'est qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va refaire. Donc, qu'est-ce qui est très connu, on a pris Séjourné, et puis on est allé jusqu'à la gare Fontpedrouse, tout en descendant jusqu'à Thuès. Tout ce coin-là a été géré notre domaine et notre champ d'action.
Jean-Louis Alvarez, on s'est donné rendez-vous à la gare de Fontpedrouse parce que vous avez vécu ici, c'est bien ça ?
Effectivement, j'ai été chef de gare pendant 17 ans ici, dans cette gare. Et mes enfants, ils sont nés.
Et vous avez fait carrière à la SNCF ?
La totalité de ma carrière à la SNCF, une moitié à Fontpedrouse, l'autre moitié à Villefranche. Ce train, il a le mérite d'être centenaire après 3 ou 4 rénovations qui avaient lieu tous les 25-30 ans. Il est devenu centenaire. Et aujourd'hui, aucune rénovation n'a eu lieu depuis les années 85, donc il nécessite une nouvelle rénovation, mais plus importante que celle qui a eu lieu précédemment, parce qu'il faut à la fois refaire le matériel moteur, les wagons, les voitures, et il faut en même temps refaire la voie ferrée, dont il y a un investissement très important qui est à mettre sur ce train si on veut le perpétuer. Parce que dans les années 80, on s'est battu comme des chiens pour garder ce train. Et les cheminots étaient un peu seuls dans la lutte. On n'a pas tout sauvé, on a perdu beaucoup d'emplois, mais on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire le train. Et aujourd'hui, en 2015, il vient de se créer de multiples associations, plusieurs, en tout cas une qui est très active, et qui est accompagnée par les cheminots, bien sûr, ils sont dedans, mais elle est accompagnée par les élus locaux de toutes tendances. Et ça oblige la SNCF à un peu plus d'écoute. Moi, j'ai rencontré le directeur de région, je n'ai franchement pas senti quelqu'un d'hostile au train jaune. Donc on a vraiment avancé par rapport à la situation d'il y a 30 ans.
Le train 17329 arrivé complet en gare de Fontpedrouse, je suis prêt au départ.
Le train 17329 arrivé complet en gare de Fontpedrouse est prêt au départ. Chef de ligne à mécanicien du train 17329, pour les partir de Pompédrouse à Montlouis. Autorisation numéro 251, 451.
T'as joué ?
Ouais,
j'ai là.
Ouais, toi ?
On a chier ?
Ouais.
Si, tu veux venir voir. C'est mon RU. J'ai oui, je suis rouge.
Vous redescendez là ?
Ouais.
Demain, tu as...
Vous avez fait l'aller-retour dans la journée ?
On a fait deux aujourd'hui. Ah, on s'est croisés tout à l'heure à l'arrivée. Voilà, ben moi...
Vous vous battez pour ce
Non, on essaye de ne pas faire toujours la même chose, en fait.
Narbonne et Râle qui isolent l'Avignon le week-end.
Ben oui, ils ont raison.
Bon, on y va, chef ?
Bon, allez, hein.
Bonne soirée.
Prends la voix. Salut, bon. C'est bon, Nico ? Allez, départ.
trajet, mais c'est jamais le même travail. Tous les jours, il n'y a pas deux jours pareils. Ne serait-ce que par le matériel qui a Saint-Ain, on n'a pas. C'est pas un matériel qui est uniformisé ou tout, qui est climatisé. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Le paysage, c'est jamais la même chose. C'est, là, ils viennent de faire les foins, par exemple, là, comme on est en train de passer là. On serait passé la semaine dernière, c'était pas du tout la même chose, ne serait-ce qu'ici. Et après, sur du paysage comme ici, où on voit beaucoup plus loin, on passe en automne, on passe en hiver, on passe. Mais c'est vraiment jamais pareil. En hiver, là, on ne reconnaît pas du tout.
Et quel est un des meilleurs moments que vous avez vécu sur cette ligne?
C'est peut-être les premières fois quand j'ai travaillé où on a eu des chutes de neige assez importantes, où quand on arrive là où on a ce paysage où il n'y a pas une trace, on ne voit pas les rails, on ne voit rien, et on a l'impression de flotter un petit peu sur la voie. C'est sûrement ces moments-là qui ont fait que je suis encore là.
C'est un autre esprit, la ligne du train jaune, c'est du chemin de fer dans le temps, hein. À l'heure d'aujourd'hui où tout le monde doit aller vite, on prend le TGV, on roule à 300 km/h, là on roule à 30, on entend le bruit des rails, le sifflet, on a le temps de voir le paysage, c'est un autre monde.